bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudet.
Bonjour à tous.
Nora Hamzaoui, Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Villa. Bonjour. Tout à l'heure, nous aurons Camille en live. Ouhou. Et notre invité, Mike Nabiraba.
Bonjour.
Pour ceux qui se posent encore la question, Birabin, ça se prononce comme Agen. On dit pas Agen.
Agen.
On dit donc pas Biraben, mais Birabin.
On dit Saint-Gobain.
Saint-Gobain.
Non, pas du tout, Asparin. Mais par contre, on dit Pont-Aven.
Ah, voilà. Ça y est, vous m'avez embrouillé. Vous m'avez complètement embrouillé.
Ça dépend de la région.
Bienvenue, exactement. Maïtena. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. On va parler de légumes. Non, mais de légumes, j'ai
on vient de lui donner le livre.
Hein, j'ai commencé par dire crudité et non.
Non.
Et pas végétarien non plus, parce qu'il y a quelques recettes avec même du jambon, de la viande ou du poisson, des crustacés. Bref, on va parler de ce livre de recettes de Maïtena Nabiraba avec Pierre Etchemaïté, qui est un chef basque. Mais d'abord, je voudrais être sûr que Tom Villa a bien compris pourquoi. Vu la tête, j'ai un peu peur. Pourquoi Maïtena est là ?
Je comprends. Bah
parce qu'elle sort un livre de cuisine.
Ah,
c'est bon,
bah voilà.
J'ai bon.
Okay.
Hein. Donc voici la couverture qui correspond à une photo prise fin juin 2016. Regardez tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule à cause du grand journal. Des tomates, des choux, il y a même une petite carotte, regardez.
Hein, garde le sourire.
On a bien fait de faire un livre de cuisine. En revanche, ce livre s'appelle Les légumes, ils vont vous surprendre. Voilà, alors ça c'est marrant. Et si je dois penser à un truc surprenant à manger, un hamster, oui, des légumes. Voilà, quelle idée. En plus, quelle idée de vouloir nous faire manger des légumes. C'est pourquoi pas des fruits pendant que vous y êtes. Non. La dernière fois que j'ai mangé 5 fruits et légumes dans une journée, c'était en mangeant une tomate cerise en buvant un verre de sangria. Non, c'est con.
Ben c'est bien, ça le fait. 1, 2, 3, 4, 5.
Ben
ouais,
on y est, ils y sont tous. Non, mais c'est vrai, quand Nagui m'a dit que vous veniez pour un livre de recettes, je me suis dit, cool, elle est originaire du sud-ouest. Faites péter les confits de canard, les magrets de canard, le foie gras de canard. Bref, envoyez-moi le troupeau de canard qu'on se pète le bide. Et là, quoi? Tian d'aubergine, tatin d'endive. Non mais je vous adore, Maïtena, mais sauf que vous essayez quand même de nous fourguer de la purée de panais.
Oui, c'est bon. Hein.
Vous savez ce que c'est, un panais ou pas? Un panais, c'est une sorte de, on dirait une carotte qui a eu une gastro. Elle est blanche comme un cul, on dirait Morin quand il va au Cap d'Agde. Et pour ceux qui connaissent pas le panais, c'est comme le topinambour, la rutabaga, c'est ce qu'on appelle des légumes oubliés.
Ouais,
voilà.
Exactement.
Et s'ils étaient oubliés, c'est qu'il y avait sûrement une bonne raison.
Il y en a une. La bonne raison, c'est que nos parents et grands-parents ont tellement mangé pendant la guerre, et avec ça,
ils sont passés à autre chose.
C'était impossible, on n'en pouvait plus, mais nous on n'a pas connu.
Non mais moi je veux bien croire que c'est bon pour la santé, mais vous savez quoi, je vous la laisse, la bonne santé. Après c'est vrai que moi j'ai une alimentation d'enfant, mon plat préféré c'est la tartiflette, mon fromage préféré c'est la vache qui rit, mon légume préféré c'est la pomme de terre. Alors celui qui va me dire c'est pas un légume, c'est un tubercule, je lui pète les dents. Oui. C'est comme le relou qui te dit la tomate c'est pas un légume, c'est un fruit.
Mais
c'est les deux.
Moi en bouffe je suis binaire, ça se mange ou ça se mange pas. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bah, les légumes, ça se mange, c'est une bonne nouvelle pour
vous. Voilà, regardez, je suis en parfaite santé. Enfin, je suis en santé.
Non.
alors, petite remarque dans votre livre, dans l'avant-propos, vous dites qu'en post-scriptum numéro 2, mon four n'est pas le vôtre. Ouais. Les temps de cuisson sont approximatifs.
Les temps de cuisson des livres de cuisine sont faux. Il faut que ça soit dit une bonne fois pour toutes.
C'est pas un livre de cuisine, en fait. C'est une liste de courses. Voilà, c'est comme si t'achètes un GPS et sur la boîte, il y a marqué les itinéraires sont approximatifs. Vérifiez les panneaux, quand même.
On sent qu'approximativement, vous savez pas trop où se situe la cuisine chez vous. Tom, si je ne me trompe
chez
pas.
Ma mère,
trop,
chez ma mère. Bref, vous savez quoi? Vu quand même que ça a l'air très bon dans votre livre, pour vous faire pardonner, invitez-moi à bouffer. Je ramène le pain et si vous connaissez un ancien président, dites-lui de ramener le dessert. Bonne journée.
Merci, Camille.
La bande originale.
Alors non seulement j'ai lu votre livre, pour pas dire dévoré, mais j'ai testé les recettes, enfin deux recettes, hein, parce que le temps du week-end, voilà, et c'est déjà bon surtout.
J'ai
testé la tarte aux asperges. C'est le tout
les
premier.
Toast.
Elle l'a fait comment ta cuisinière?
J'ai reçu une recette.
Déjà t'es poli avec ma femme. T'es genre,
j'embrasse d'ailleurs.
S'il te plaît, oui. Pourquoi tu veux qu'on te garde un bout?
De quoi?
Non, c'est extrêmement bon, c'est extrêmement simple. Tout n'est pas végétarien. D'ailleurs,
végétarien.
Voilà, c'est ça. Vous dites.
C'est juste, j'avais envie de légumes. C'est marrant que vous ayez fait le parallèle avec le Grand Journal parce que c'est vrai que c'est lié. Je voulais faire quelque chose de joli. J'avais besoin de faire quelque chose de joli. Et si vous regardiez un peu plus les légumes, vous verriez qu'ils sont beaux. Ils sont ravissants.
Ils sont beaux, ils sont toutes les couleurs, ils sont remplis de vitamines. D'ailleurs, le point de départ, c'était de croiser des personnes qui ne vivaient que de légumes et de leur potager et qui étaient en pleine forme et en pleine santé en disant « Mais pourquoi on va chercher compliqué? Pourquoi on fait dans l'industriel ?» Alors que finalement, en suivant les saisons, en évitant les pesticides et en mangeant bio, on se porte mieux.
Ça s'appelle un vieux con, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais c'est non, vrai, non, mais c'est les ouais. recettes de grand-mère, c'est le point de départ, c'était Denise qui faisait la cantine dans l'école où j'ai grandi, une toute petite école, on allait du CP au CM2, il y avait madame pour les petits et monsieur pour les grands, et Denise, à midi, elle arrivait, avec, je me souviendrai toute ma vie, avec son bac en aluminium de hachis parmentier le canard. je m'en souviens encore, bon bref. Donc Denise, je l'ai toujours connue, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, et puis après, je l'ai revue, j'avais 30, et elle avait la même tête, moi pas, mais elle, oui. Et je me suis dit, mais c'est pas... Elle était déjà vieille quand je l'ai connue, Denise, hein. Mais elle avait vraiment... la même peau. Je me disais, mais c'est pas possible.
C'est confit.
Je croise un autre vieux du village, mais il a pas changé. Je dis, mais il y a un microclimat ou quoi ici? Je vais rester vivre à Montgaillard. C'est quand même incroyable. Et puis, en réfléchissant et en parlant avec eux, je me suis effectivement rendu compte que cette génération-là, qui était donc déjà âgée quand moi j'avais 7 ans, depuis toujours, ils mangeaient non seulement ce qu'ils cultivaient, mais ouais. vraiment local donc, et forcément de saison.
Évidemment.
Et voilà, s'il n'y avait pas de tomates, ils mangeaient pas de tomates.
Et donc, comme par saison, on n'a pas forcément une prolifération de choix, il faut trouver des solutions pour jouer soit en le préparant différemment, soit en le découpant avec des formes différentes, oui, soit en l'associant avec des parfums ou en les mélangeant, et d'un coup arrive cette idée de création et d'un nombre incalculable de recettes en suivant les saisons.
Exactement. Alors,
et c'est beau, il faut quand même dire, parce que moi j'adore...
Les photos sont belles.
Moi, j'adore les livres de cuisine, je suis une piètre cuisinière, on va pas se mentir, mais alors...
Moi aussi, je suis pas excellente. Hein.
Un livre avec des photos comme ça, et puis ne serait-ce que la pagination, c'est bête, mais quand on va acheter un livre de cuisine, je trouve que ça compte, c'est aéré, on trouve rapidement la liste des ingrédients. Les consignes, c'est pas en 15 étapes. Non. Parce que bon, moi, à la première, j'abandonne, en gros. Et puis, on apprend à chaque fois quelque chose sur la valeur nutritionnelle de l'aliment. Par exemple, que l'asperge est très light, mais qu'elle ouvre l'appétit. On apprend pas mal de petites choses comme ça. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien foutu.
Ouais, et puis, la bonne idée aussi, c'est de ne... Faut pas gâcher. C'est-à-dire, vous pensez aussi, est-ce que ça se réchauffe ou pas? Oui. Est-ce que ça se mange froid ou pas? Est-ce qu'on peut le garder dans des bocaux ou pas? Non, mais il y a un côté
il
pratique.
Je parviens lune, Nagui, mais non, c'est mais vachement c'est vrai. Sympa.
Il y a un côté pratique, quotidien,
il y a un côté mère
qui
de
résonne
famille.
Et qui résonne dans la tête de tout le monde.
Non, mais il faut qu'on gère. Moi, à un moment, j'ai été à la tête. Maintenant, les grands sont partis, mais j'étais à la tête de 4 enfants. Faut gérer, quoi. C'est pas. Faut penser à ce qu'on va acheter. Ouais. Faut gérer son frigo et faut. Il y a des restes. Rentable. Faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas passer notre vie à jeter les trucs.
D'ailleurs,
quoi.
L'une des solutions est de plutôt prévoir les courses de la semaine en sachant les menus que l'on va faire pour économiser.
Alors ça c'est moi je l'ai fait un temps, bon après j'ai laissé tomber parce qu'il faudrait en fait partir faire ses courses avec son livre de cuisine et acheter exactement ce qu'il y a dans les recettes. Et si on le fait, je l'ai fait vraiment pendant quelques mois, c'est incroyable, on divise
le budget.
Hallucinant, mais hallucinant. D'abord vous jetez plus rien, vous achetez deux poireaux parce qu'il faut deux poireaux et puis il faut un demi poireau pour l'autre donc donc vous achetez les poireaux qu'il vous faut machin etc. Vous cuisinez ce que vous avez. Et voilà, c'est
mais
tout.
Ça prend
c'est
beaucoup
terminé.
De temps. Ça prend beaucoup de temps.
C'est, tu fais, tu vois, t'es là. Alors, attends, page 12.
C'est pénible. Et puis, il faut anticiper ses envies de. Ouais. C'est ça aussi. Quand tu te dis, je vais manger ça après-demain, et puis en fait, le lendemain.
Alors, il y a une autre solution, c'est d'aller, au marché et de voir ce qu'il y a et de le voir, ça donne envie. Après, de l'habitude naîtra forcément la quantité.
Et la cuisine, c'est créatif. Hein.
Et poser la question aussi aux commerçants, c'est en disant. Et à votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ci, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Les tomates sont pas toutes les mêmes aussi, elles ont pas toutes le même goût en fonction des tomates cerises ou des cœurs de bœuf pour prendre les deux extrêmes de la plus petite à la plus grande.
Il est bon tomate ou pas?
Non,
il est
mais
super
bon.
Alors, la cœur de bœuf, c'est dépassé, dépassé. Hein.
C'est pas dépassé.
C'est délicieux. C'est très
mais arrête, non, je parle pas de bobo parigot, moi. Je te parle de quand tu vas l'accueillir sur son pied.
Maintenant, c'est la tomate noire de Crimée.
Tu la passes juste sous l'eau, tu la coupes en deux, tu mets un filet d'huile d'olive avec du gros sel dessus, tu meurs ta race.
Laisse tomber, c'est délicieux.
C'est délicieux.
Délicieux.
Ils sont hyper fins. Quoi? Je sais pas, dès que tu dis huile d'olive, ils font...
Alors j'ai même essayé avec de l'huile de sésame. C'est encore meilleur. Mais bon.
Oui, alors c'est un goût. Hein.
Ah, ouais, c'est un goût. Ouais. Non, mais le sésame donne
avec
un goût.
Absolument. Absolument.
Moi, j'ai fait huile de vidange. Je peux te dire que c'est un goût aussi. Hein. C'est pas dégueu.
Est-ce que alors ce livre arrive à quel moment? C'est-à-dire, il était en gestation depuis très longtemps.
Il y a 15 ans que j'y pense. Il y a 15 ans que j'ai cette histoire de... En fait, je voulais faire un programme court avec des légumes. Je voulais des rideaux rouges qui s'ouvrent à la télévision et derrière, il y avait une courgette. Tatin. Tu vois, et on nous racontait. Et je me disais, je vais aller voir le syndicat de la coopérative des fabricants de courgettes et ils vont mettre l'argent, etc. Et on va avoir 17 recettes de courgettes. C'est génial.
Et bon, ça n'a pas marché.
Bah, je n'ai pas été plus avant. Hein. Je me suis resservi un verre à boire et j'ai continué ma route.
Et puis,
15 ans plus tard, je n'avais que ça à faire. Et j'avais vraiment envie et je me suis dit, tiens, j'y vais. Donc j'ai envoyé un mail à mon éditeur, à Marabout. Voilà, je me suis dit, c'est qui le plus gros? J'ai trouvé que c'était celui-là. J'ai envoyé un mail, je fais, bonjour, je suis Maïtena Birabin, je voudrais faire un livre de recettes de légumes de saison. Est-ce que ça vous intéresse, pour une interrogation? Il m'a répondu oui et on l'a fait.
Ouais, non, c'est super bien. Je pense là, la prochaine que je vais tester, ça sera la tatin d'Andive.
D'accord,
elle est belle.
L'idée, parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense en voyant une endive. En disant, tiens, je vais faire une tatin d'endive.
Elle est magnifique,
cette
tarte.
Et en plus, c'est 5 minutes de cuisson et un peu plus de préparation et c'est fait.
Et hier soir, j'ai fait les petits pois, le tagine de petits pois. Faites-le parce que c'est la saison des petits pois. On arrive au bout, là, des petits pois. C'est extraordinaire. À la fille qui se kiffe. mais je l'ai payé, je vous assure, c'était délicieux.
Mais vous avez toujours été cordon bleu ou vous avez quand même raté quelques...
Non, je suis pas un cordon bleu du tout. J'adore ça. J'adore faire les courses. J'adore recevoir. J'aime l'idée de la famille française. J'adore ça. Ouais. J'adore.
La cuisine, c'est le partage.
J'adore ça. Voilà. Donc j'ai même une image d'Épinal associée à ça. C'est parfois un peu ridicule, mais je m'en fous. Je l'assume. Et je suis pas un cordon bleu. Je suis pas du tout nulle, une brêle en cuisine non plus. Mais la cuisine du quotidien, elle est vraiment... Enfin, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Après, c'est plus on fait, plus on prend un livre, on démarre une recette, puis on dérive, on se dit, tiens, c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Je vais pas mettre ce qu'elle dit, je vais mettre autre chose. Et c'est la liberté, c'est génial. Donc, les trucs, je touche ma bille plus que d'autres, mais...
voilà. C'est quoi la spécialité, alors? La spécialité?
Moi, je fais très très bien, alors c'est pas du tout végétarien, je fais très très bien le poulet à la coco et à la citronnelle. Je fais très bien... je suis forte en soupe. Je suis très balèze en soupe, même si mon mari pense qu'il est meilleur.
Ça crée des tensions dans le couple ou pas?
Oui. On est beaucoup sur la charge. Vous avez parlé de ça, je suis sûre.
La charge mentale.
C'est un gros dossier en ce moment. J'adore, ça divise la France en deux. Elle est géniale, cette histoire de charge mentale.
Légumes, ils vont vous surprendre. C'est surtout Maïtena qui vous surprend parce que voilà, c'est gai, c'est frais, c'est simple, ça vous donne plein d'idées.
On dirait une pub, c'est gai, c'est frais.
Mais c'est simple, ça donne envie. Voilà,
Merci beaucoup.
On est ravis.
Et puis, le petit clin d'œil, je sais pas, moi j'ai pensé à Maïté, je me suis dit, elle est drôle jusqu'au bout, elle y va dans les légumes. Il y a une espèce de parallèle aussi qui est
amusant. On est du même coin. Maïté, elle est je sais plus exactement d'où, mais on est à 50 km l'une de l'autre.
Il y a Maïtena et Pierre Etchemaïté.
Maïté, c'est un prénom landais, béarnais, ça veut dire Marie-Thérèse. Maïtena, c'est basque, ça veut dire Marie la plus aimée. Donc vous me rendez mon as, s'il vous plaît. Voilà.
Vous aurions sifflé, Leïla, quand on vous a annoncé la venue de Maïtena ici.
Et oui, quand je pense à vous, je pense à une émission qui vous a donné un rôle de premier plan à tel point que les politiques se pressaient sur votre plateau et c'était des ténors.
La différence entre Dieudonné et Charlie Hebdo, vous pouvez l'expliquer clairement, simplement.
En France, on peut se moquer des religions, de toutes les religions. Ça a toujours été dans l'histoire. On s'est toujours moqué des religions. Ça a été même un principe de liberté. Parce que les religions étaient regardées comme écrasant la vie privée. Donc on a le droit de se moquer. Il n'y a pas dans le droit français l'interdiction du blasphème, qui peut exister dans d'autres pays. Là, on peut se moquer. En revanche, on n'a pas le droit d'appeler à la haine.
Voilà François Hollande qui était votre invité dans le supplément. Il faut préciser qu'avant l'existence du supplément, tous les politiques se pressaient sur le plateau du Grand Journal pour faire leur annonce. C'était vraiment le rendez-vous incontournable. Et à partir du moment où le supplément a existé, c'est sur votre plateau, Maïtena, qu'il venait. Là, on vous a entendu poser une question à l'ancien chef de l'État, une question posée au nom des jeunes qui étaient sur le plateau, donc qui avaient cette envie aussi de transmission. Je me demande comment est-ce qu'on aborde un invité comme François Hollande, alors qu'il était aux responsabilités à ce moment-là. Comment est-ce que vous l'avez abordé dans votre questionnement? Et surtout, est-ce que, à ce moment-là précis, l'Élysée vous laisse complètement libre.
Alors, la liberté, elle était absolument totale. Il savait absolument pas. On avait défini ensemble les thématiques. On les avait informés sur les thématiques, évidemment, pour qu'ils sachent qu'on allait parler du chef des armées, qu'on allait parler du chômage, qu'on allait parler du FN, qu'on allait parler de la jeunesse. Ça, ils le savaient.
C'est
le
reste,
ils ne le savaient
quoi.
Pas. Ouais. Et comment on aborde une interview du président de la République qu'on doit faire, qui doit durer 52 minutes toute seule, eh bien, il n'y a pas beaucoup de solutions. En bossant. J'ai jamais bossé comme ça de ma vie. J'ai bossé comme une malade.
Ça se prépare combien de temps à l'avance, un truc comme ça?
J'ai bossé le temps que j'ai su, entre le moment où ça s'est fait, un mois et demi. J'ai bossé nuit et jour comme une malade, parce que je devais tout savoir sur le chômage, je devais comprendre ce que c'était que le chômage, vraiment, qui le calculait, comment il montait, comment il descendait. Moi, j'y vais pas si je suis pas au courant, donc j'ai bossé comme un chien. J'ai bossé sur Barkhane, j'ai bossé sur le Mali, j'ai bossé sur toutes les opérations extérieures de la France, j'ai bossé sur la montée du FN ces 30 dernières années, j'ai bossé sur le
bosser,
PS.
Ça veut dire seul avec des livres,
on avait réfléchi avec Laurent Bon qui produisait l'émission aux thématiques, et ensuite à moi de faire mon beurre. Je travaillais avec Émilie qui était mon assistante, je lui disais cherche ça, ça, ça et ça, elle me donnait des dossiers, je lisais. Je prenais mon stabilo, enfin voilà comme on bosse tous quoi, je stabilo bossais, je me disais ça pose telle question, ça c'est l'URSSAF, mais l'URSSAF c'est quoi, je sais pas ce que c'est l'URSSAF, il faut que je comprenne et tout, donc j'allais chercher.
C'est
j'ai
fin.
Bossé, mais ouais. J'ai bossé, mais quand il est arrivé, attends, je veux dire, j'étais béton, quoi. J'ai fait, allez viens, alors qu'est-ce qu'on fait.
Le AK, quoi.
Mais c'était génial.
Et surtout, c'était l'une des seules fois où le supplément avait été en direct.
Oui, c'était, parce que généralement, c'était enregistré. Encore une fois, ça se fait avec une équipe, hein, toujours une émission de télé. Laurent Bon, il était en direct tous les soirs avec le petit journal. Il y a un moment où il fallait qu'il vive un peu aussi, et puis voilà, ça ne nécessitait pas forcément. Voilà, on était enregistrés. Mais...
Et qu'est-ce que ça représentait comme prise de risque? Il y a l'affiche qui est très belle, François Hollande, le président de la République, dans votre émission. Mais pour vous, en direct, tout d'un coup, 52 minutes?
Non, moi, le direct, j'ai grandi au direct. C'était plutôt le différé qui était un problème pour moi. C'était difficile pour moi de...
Mais c'était un différé dans les conditions du direct.
Oui,
vous
enregistriez,
vous...
On débordait. On débordait. Parce que moi,
montages,
comme il m'imposait le différé, moi, je l'en mettais 2 heures dans la tronche. J'y allais, je faisais des interviews. C'est un vieux fleuve, on n'en s'arrêtait jamais, c'était affreux. Non, moi, le différé m'angoisse plus que le direct. Le direct, c'est la vie.
Il faut juste préciser une chose de réflexion de producteur. Je l'ai fait avant même que tu le dises, mon cher Daniel.
Je sais que vous êtes un artiste avant tout.
C'est que le dimanche, évidemment, et ce qui est naturel, les cachets sont deux fois plus importants aussi.
Ouais.
Donc réflexion on n'est pas obligé, quand on n'est pas obligé de travailler un dimanche en direct, autant faire travailler les personnes le vendredi ou le samedi.
Et par ailleurs, des politiques qui sont disponibles pour venir sur un plateau le dimanche, ils sont beaucoup dans leur région. Il y a plein de raisons qui expliquaient qu'on était enregistré.
Et cette émission a été un record d'audience pour un direct,
en
plus.
Et la vie d'une journaliste, elle est jalonnée par des moments comme ça importants, des temps forts. Quelle interview, selon vous, a marqué une trace importante dans votre carrière, où il y a eu un avant et un après?
Celle-là, interviewer un président de la République seul pendant plus de 50 minutes,
c'est inédit.
C'est inédit, oui, jusqu'à preuve du compte. Sauf si je ne m'abuse, parce que généralement c'est un pool de journalistes.
Oui.
Mais là, toute seule, je crois que je suis la seule.
Et en n'étant pas à la tête d'un JT, il faut préciser.
Mais oui. Mais comme quoi, on peut avoir un cerveau même si on n'a pas de carte de presse. Mais c'est incroyable. Mon Dieu, que passe-t-il?
Ne dis pas n'importe quoi, non.
Pardon, excusez-moi, Daniel.
Pas n'importe quoi.
Moi, ça m'étonnerait, mais enfin, si elle le dit.
C'est des moments, c'est extraordinaire d'avoir pu faire ça. Franchement, j'ai adoré faire ça. Moi, j'ai été interviewer les politiques comme on interviewait les autres, mais les politiques ne sont pas des gens comme les autres. Ils nous doivent des comptes et on peut leur poser toutes les questions, et ça, c'est extraordinaire.
Voilà. Maïté Nabirama, notre invitée jusqu'à 12h30, invitée également et en live avec son nouvel album Camille. L'assaut, c'est l'un des titres qui figure sur cet album qui s'appelle Oui. Elle sera en tournée, ils sont déjà d'ailleurs en tournée, mais la tournée passera par Nantes le 30 mai prochain, le 31 ça sera à Rouen, ensuite il y aura la Cigale pendant plusieurs soirs, 4 soirées, tout est complet. We Love Green, ça sera à Paris le 11 juin, il y aura un festival à Neuchâtel au mois de juillet, les rendez-vous seront aux Francofolies, aux Vieilles Charrues, les Nuits de Fourvière également. Et là, le groupe au complet vient en direct dans la bande originale pour Une Fontaine de lait, Camille et son groupe dans la bande originale. Camille, avec au cœur Madly Mendy Silva, Christelle Lassor, Gisela Razanajatovo et Clément Ducol au percu et au chant. Merci à tous les quatre parce que les voix et les chœurs se sont extraordinairement bien mariés avec la voix de Camille. Merci,
merci
Camille,
merci,
de venir ce matin nous présenter cet album Oui, qui a une histoire bien particulière parce que d'abord l'album partait pour être plutôt un non et puis d'un coup...
C'est un oui protestataire. C'est le oui de, voilà, comme vous. Qui vous dites pas non à la viande, mais vous dites oui aux légumes, quoi.
C'est ça.
Allons vers ce qui nous plaît.
C'est ça, le sourire.
Exactement. Ça. Avec un oui et un jeu de mots avec le tréma qui vient sur le, oui, sur le i, parce que le son est évidemment extraordinairement présent, important. Le jeu que vous faites avec ce son, très organique. Alors, on peut parler de, ce qui est bien, c'est avec cet album, c'est qu'on peut parler de la manière dont il a été enregistré, les paroles, qui sont porteuses aussi de beaucoup de messages, le choix des mélodies, puisque vous faites pratiquement tout, même s'il y a quelques partages artistiques sur cet album, mais vous êtes auteur, compositeur, interprète, productrice aussi avec, avec Clément de cet album. Comment il est né d'ailleurs du texte, de la musique, de la chapelle où vous êtes allé enregistrer? Quel a été le point de départ?
Ah, c'est une alchimie. Le point de départ, j'avais envie d'un tambour et de deux chœurs, un chœur rythmique, un chœur lyrique, que j'ai interprété sur le disque et qui maintenant est interprété par ces jeunes femmes, magnifiquement.
À propos du rythme, pardon, la différence entre le pair et l'impair, il faut l'expliquer à tout le monde, parce que...
Le pair et l'impair, c'est
entre
que...
Le folk, entre le rythme folk-pop habituel et celui que vous avez choisi de...
Alors, sur le disque, il y a deux chansons en rythme impair. Le rythme pair, c'est quand les mesures sont en 4, donc ça fait... On compte 1, 2, 3, 4, ça fait poum, ka, poum, ka, poum. Je vous fais un rythme
c'est
un peu basique.
C'est binaire.
Voilà,
c'est
et vrai. Par exemple, là, sur l'assaut, c'est poum, 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 poum.
J'écrivais comment, Takapoum? Je prends des notes.
Hein. Ça, hein?
J'écrivais comment, tout ça?
Poum-tchak, poum-tchak. C'est-à-dire que le rythme impair, tout de suite, on rentre dans, c'est moins carré et c'est plus circulaire.
Ouais.
Voilà, j'aime beaucoup les rythmes impairs.
Et donc, ça donne plus envie de quoi? De danser, de bouger?
On bouge différemment. Les rythmes pairs, ça fait danser. Hein, ça nous fait danser depuis voilà, au moins un siècle dans la pop, en tout cas. Mais les rythmes impairs, ils sont très communs dans le folk aussi. Hein, c'est juste qu'on en a perdu un peu l'usage, mais...
Et la vie pour vous, c'est un rythme pair ou impair?
Impair.
Impair.
Impair. Ça swing. C'est pas seulement que ça swing, c'est impair, c'est circulaire pour moi.
D'accord. Donc c'est parti comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Maïtena?
Mais oui, parce que nous, moi, j'ai la chance, là, je suis dans le studio, donc on vient de vous voir et de vous entendre. Franchement, les artistes vivants, il faut aller les voir sur scène.
Oui, enfin, mort, ouais, c'est plus délicat.
Oui, le spectacle vivant, il faut aller le voir sur scène. Merci. Tu ne passes rien à personne?
Non, jamais,
rien.
Okay. Rien.
Sauf à lui.
Ah, ouais, oui, non, bah, il a raison. Bon, ok, très bien. Il faut aller. Il y a des gens qui sont meilleurs sur album que sur scène. Il y a l'inverse.
Vous voulez dire que moi c'est l'inverse?
J'en sais rien.
Les deux.
J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'en vous voyant, je me dis mais quel dommage que les gens ne vous voient pas. C'est sidérant.
Il y a des gens qui vont la voir, mais.
C'est non, mais là, à la radio, là c'est extraordinaire.
Non, parce que il y a quelque chose de presque mystique aussi, notamment avec les chants à la fin de cette chanson. Et puis on va parler du thème aussi de cette fontaine de lait, puisque c'est la fécondité, la maternité qui est très présente aussi sur l'album.
Oui, elle est présente dans ma vie. Je suis maman de deux enfants maintenant et je dois dire que pour moi c'est une offrande permanente. Quoi.
Arrêtez-vous, plus c'est trop.
Quand vous en avez combien?
34.
13.
Ah, après tu changes de voiture.
Ah, vas-y, j'en donne.
Et tu comme ça ferait 4. J'aimerais bien en avoir encore 2.
Okay.
On verra.
Le message est passé.
Voilà quand je fais une fontaine.
Il y a la fécondité, il y a la sexualité qui est présente aussi sur cet album, il y a la paternité ou la descendance aussi qui est présente avec Fille à papa.
Fille à papa, 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 fille à papa. Lentement, je suis devenue grande.
Mon père.
Et je viens à toi.
C'est votre grand-père qui vous a jamais vu sur scène, c'est ça?
mon
parce
grand-père,
qu'il était musicien aussi.
Ah non, alors le papa de mon... Bah, mes deux grands-pères m'ont jamais vu sur scène. Le papa de mon papa était plutôt conservateur dans ses goûts. Et à la toute fin de sa vie, il m'a fait savoir qu'il aimerait bien. C'était très très mignon.
C'est mignon. Ouais. Et c'est lui qui a un peu frustré votre papa d'être musicien. Il l'a empêché de partir en tournée.
Oui, quand il était ado. Bon voilà, hein, c'était... Il vivait en Afrique, au Cameroun, et bon, il lui a dit non, tu fais pas la tournée. Voilà, bon, après.
Mais alors, vous êtes quoi, une espèce d'ovni dans cette famille? Vous êtes l'artiste qui s'est permis toutes
non,
les originalités?
Non, pas du tout. Je suis la synthèse de pas mal de fantaisie familiale. Ouais. Il y a pas mal de courants, ouais.
Et alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tout l'album, mais il y a cette chanson qui s'appelle Twix. Et qui rejoint un tout petit peu ce qu'on se dit sur les fruits et les légumes avec Maïtena, parce que le texte de la chanson, c'est prenez un Twix, mettez-le dans la terre. Qu'est-ce que vous aurez? Rien du tout. Prenez un Mars, mettez-le dans la terre. Qu'est-ce que vous aurez?
Ça marche avec les Bounties, ça marche avec
les
Haribos. On peut dire plein d'autres trucs. Allons-y.
Mais si tu mets une pomme dans la terre, là, tu auras de quoi manger pendant au moins un an.
Si tu plantes un Twix dans la terre, si tu plantes un Twix.
Tellement, d'abord, je trouve que le discours est beaucoup plus clair comme ça. Ça sert à rien de dire tout ce qui est industriel, c'est de la merde. Et
vous
le
dites
bio
ça comme ça, vous.
Mais, oui, bah oui, parce que tout ce qui est industriel, c'est de la merde. Et tout ce qui est naturel...
Faut écouter Irène Grosjean, c'est une super naturopathe qui a 87 ans et qui parle de ça très bien. Qui m'a beaucoup inspirée.
Alors elle est plus que pour les légumes et les fruits, elle est pour le cru.
Oui, la nourriture vivante, elle dit il faut manger du vivant, on est vivant, il faut manger du vivant. Quoi.
Oui, mais on est français, alors il faut cuisiner aussi.
Oui, bien sûr, il y a des choses culturelles, et puis il faut faire des ayatollahs. Voilà.
Et elle dit, parce que je me suis intéressé grâce à Camille et à Irène Grosjean, et elle dit une phrase spécialement pour vous, Daniel Morin.
Je vous écoute.
Elle dit tous les suicidaires sont de grands consommateurs de café, les meurtriers des consommateurs d'alcool. Ah. Et je vous ai reconnu dans les deux.
Oui, mais il a de l'humour quand même.
Mon CV en deux phrases. Merci Nagui.
Le plaisir.
Attends, c'est dans quelle heure? Parce que j'aimerais être sûr que je suis dans
le bon... Faut pas faire de l'eugénisme alimentaire quand même.
Suicidaire, c'est le café.
Pas de café, suicidaire et meurtrier, alcool.
Alcoolique, très bien.
Mais
meurtrière. Elle dit quelque chose de formidable. Elle dit qu'elle trouve totalement dingue qu'après une nuit de repos, le matin, le premier réflexe, c'est de prendre un café comme pour redonner de l'énergie, alors que normalement, on vient de récupérer. Et crois-moi...
Normalement, on pète le feu le matin.
Voilà. Et crois-moi, je buvais jusqu'à 14, 16 cafés par jour.
Parlez-nous de vous, Nagui.
Non, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté et c'est juste, on s'impose ce...
Ben non, mais c'est un réflexe, oui.
Exactement.
C'est,
voilà, c'est juste... Tu te l'imposes.
Mais tu vois qu'il y a plein de théories sur le café. Il n'y a pas des trucs, il n'y a pas des gens qui disent que c'est bon pour d'autres choses.
Oui,
non, c'est
tout est une question de dose.
C'est ça. Ouais. Un, deux, mais pas 14, 15. Regarde, ouais, dans quel état il est.
Et j'ai 17 ans.
Est-ce que, puisque tout à l'heure Maïtena parlait du concert et parlait du live, l'un des soucis que vous avez en concert, c'est l'acoustique de la salle dans laquelle vous vous retrouvez, parce que toutes les acoustiques ne se ressemblent pas, et que l'inconvénient du live, c'est qu'il, enfin, vous, le vôtre en tout cas d'inconvénient, c'est que vous cherchez cette pureté du son, et des fois des salles résonnent, des fois en plein air il peut y avoir du vent, il peut y avoir des...
Ah, le vent, je l'aime bien. C'est pas l'acoustique le problème, c'est la sonorisation, enfin l'amplification de la musique dans une acoustique. l'acoustique qui pose problème. Par exemple, une cathédrale sublime, si tu commences à amplifier des voix et a fortiori des rythmes, ça devient très très technique. Il faut des enceintes à distance régulière hein, pour pas que ça devienne une espèce de piscine de son.
Ça devient des mathématiques pour pas que ça résonne. Ça devient
des mathématiques. Pour que ça tourne. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles qui ont des sonos qui sont ce qu'elles sont. Et nous, on est obligé de s'adapter parce que des fois, il y a des vis, quoi. C'est-à-dire que ça va taper sur une barre en métal. Et puis en général, moi, je suis à la meilleure place. C'est-à-dire que, en général, moi, des fois, je vis des trucs complètement, j'entends rien de tout le concert. Je suis là, je chante et tout. Et puis, le public me dit qu'il y avait un super son dans la salle et les musiciens, ça allait. Et moi, j'avais juste à l'endroit. Voilà. Mais bon, ça va, ça fait partie du jeu, quoi.
Vous pensez que vous êtes extrêmement exigeante dans votre travail, dans le...
Je suis exigeante, mais en même temps, je m'adapte beaucoup et j'aime beaucoup l'imprévu. Donc
Est-ce que justement, en concert, il y a de l'imprévu, il y a des improvisations possibles.
Ouais. Des improvisations, oui, de l'imprévu, oui, bien sûr. Oui. Moi, j'aime bien l'imprévu. Ça permet le rebond.
Moi, j'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois sur scène sur les mêmes albums, en fait, vraiment à deux reprises, je crois, quasiment pour chaque album. Et c'était à chaque fois très différent. Ça n'avait rien à voir. Je crois que vous avez une sorte de façon de vous connecter aux vibrations, à ce qui vous entoure. Ça doit être le cas de tous les artistes.
Mais en chantant pieds nus, généralement.
Vous avez quelque chose de particulier. Non, mais vraiment, Maïté Nal souligné tout à l'heure, c'est vraiment... autre chose que d'aller voir un simple concert, en fait, d'aller voir Camille sur scène.
Enfin, ce que vous faites avec votre voix est sidérant. Enfin, on a l'impression que vous n'avez pas de limite. Moi, par exemple, tous les samedis soirs, je regarde The Voice. D'accord.
Ah oui, voilà. C'est pas mon cas.
Et vous devriez. Parce qu'on voit des gens qui ouvrent la bouche et qui. Moi, je voulais être cantatrice. C'était mon rêve. C'était impossible.
T'es pas trop tard.
Non, si. C'était d'accord. Vraiment impossible. Et je suis mais fascinée par les gens qui ouvrent la bouche et qui savent moduler un son. Et alors après, c'est donné par la nature ou pas, mais on peut aller de là à là.
Non, mais il y a un immense travail. Bien sûr. Le don devient un talent quand il est travaillé. C'est le cas.
Mais de vous entendre, de vous voir. Enfin, je vous vois et j'entends ce qui sort de votre bouche. Je me dis, mais c'est surréel, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Extraordinaire.
J'ai l'impression qu'on est tous des chanteurs. Il faut juste aller dans le sens du plaisir de sa voix. Voilà ce que j'ai envie de dire. Si vous avez envie de travailler votre voix, allez dans le sens, ça doit être comme une source, je sais pas comment dire, un liquide, je sais pas comment je dirais. Ça doit être une sensation très très agréable.
Mais quand le plaisir de donner sa voix devient le cauchemar des auditeurs, à ce moment-là, il faut arrêter. Il y en a certains qui devraient. Oui, il faut cesser.
Non, mais c'est pas. On n'est pas obligé d'en faire une carrière. Hein. Ah. Voilà. Juste le plaisir de chanter.
Clairement, cet album est, je l'ai dit, organique. Il est visuel aussi. On a envie de vous suivre sur scène. Il est dans une ambiance extrêmement agréable, mais il est clairement décalé par rapport à la douleur, par rapport au folk. Il n'est pas fait pour qu'on tape des mains et il n'y a pas des refrains à reprendre en chœur avec vous. C'est un véritable choix d'être décalé par rapport à des tubes potentiels, même si je crois qu'il y en a là-dessus. Non.
Excellente vanne.
Il voulait pas du tout dire ça. C'est pas du tout ce que vous pensez.
Commercial.
Écoute. Non, j'ai pas une volonté d'être décalée. J'essaie vraiment tout ce que je peux de faire couplet-refrain. Et je vous promets que c'est que des chansons sur le disque. Il y a couplet-refrain sur toutes les chansons. Après, j'essaie vraiment de suivre mes envies. Voilà. Et là, c'est vrai que je vais au bout de choses que j'entends et que j'ai pas entendu ailleurs et que j'ai vraiment envie d'entendre moi, quoi, que j'ai envie. Voilà, j'ai envie de tambour, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de chercher un son singulier. Voilà. Et après, les formats ne sont arrivés que parce que des artistes ont fait des choses et qui sont devenus formatés parce que ces choses ont marché. Faut pas inverser le
processus.
Ouais, c'est ça.
De création.
Voilà. Il y a certainement beaucoup de tubes sur ce disque.
J'en conviens.
Après, tout le monde essaiera de faire pareil.
Et c'est la raison pour laquelle elle sera également dans Taratata le mois prochain, même pas. D'ailleurs, ça se passera le 30 juin, si précisément le mois prochain, avec deux titres de cette album, une reprise qu'elle nous offrira, et à ses côtés il y aura également Fefe, London Grammar ou encore Ed Sheeran. Camille revient tout à l'heure pour nous offrir une reprise de Johnny Mitchell. À tout de suite Camille, merci d'être là dans
France Inter.
Lady, la bande originale. C'est l'humeur de Nora Mzaoui.
Maïtena Birabin, votre livre Les légumes, ils vont vous surprendre est sorti juste à temps. Bon, bah, déjà parce que c'était la fête des mères et que ma mère vous adore. Je l'adore, c'est une femme forte, tu vois, avec sa coupe comme ça engagée, une femme qui a du style et qui fonce. Ouais, non, ma mère établit des profils psychologiques grâce aux coupes de cheveux. Enfin, c'est ce truc qu'elle a. Et aussi parce qu'on crève de chaud et que ce serait bien de rappeler à tout le monde que c'est pas parce qu'on a dépassé les 25 degrés qu'à partir de maintenant on est tous obligés de se nourrir uniquement de tomates mozza. Voilà, c'est dit. La tomate mozza, on n'en peut plus. Mais c'est vraiment la cagole des salades, quoi. Je veux dire, ça va, on en fait tout un foin, c'est quand même juste une salade de tomates qui a eu du succès grâce au fromage. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent de la meuf.
Fromage qui n'a pas de goût, en plus.
C'est vraiment l'équivalent de la meuf banale.
Non, ça n'a pas de goût.
Mais non, non,
tu peux pas faire ça. Vous avez tout fait la
carton jaune. Carton rouge.
La feta, ça a un goût.
La feta, ça a du sel.
Ça suffit. Vas-y, Nora, parce que là,
vraiment, il y avait Nora qui faisait une chronique.
Vous avez vu ce débat? Vous avez vu comme vous vous excitez sur la mozza? Je vous dis, c'est un problème. Pour moi, la mozza, la tomate mozza, c'est vraiment l'équivalent de la meuf que tous les mecs trouvent pas mal juste parce qu'elle a des gros seins, en fait. Mais je veux dire, tu lui enlèves la mozza, elle n'a aucun intérêt. Exactement pareil. Je souffre. Je suis en grande souffrance aujourd'hui. Et puis, non, mais je suis un peu remontée, mais il faut dire que cette dernière semaine, j'ai enchaîné 3 dîners, donc, des petits problèmes. Et donc, à chaque lignée, on m'a invité. Alors, à chaque lignée, à chaque fois, 3 fois tomate mozza. Ah non, et alors, attention. Mais en plus, j'aime bien ça. C'est juste que je n'aime pas tout ce qu'on fait autour. Ça m'agace l'engouement. Rien que là, ce qui s'est passé, excusez-moi, c'était un peu bizarre. Mais je veux dire que les gens assument que c'est juste une tomate mozza. C'est pas peine d'en faire des caisses. Il y en a une qui m'a sorti. Vous aimez l'huile de truffe? Parce que moi, je l'ai fait avec de l'huile de truffe. Ouais, enfin, ça va, tu vois. Vendredi, il y en a carrément une qui m'a sorti. Il y a un bar à mozza qui a ouvert près de chez moi. Une tuerie. On l'a acheté. C'était canon. Un bar à mozza. Donc, vraiment. Non, mais il suffit de mettre l'expression bar A devant un truc pour que ça vienne couler dans chez. Attends, tiens, il n'y avait rien à bouffer à la maison. Du coup, j'ai fait une quiche Lorraine. Tu vas voir, c'est canon. Les lardons, je les ai achetés dans un bar à lardons. Non, ça va pas, faut arrêter. Après, le vrai problème, c'est que la bouffe italienne est hyper bonne. Donc, forcément, après, ça se la pète. Alors, vous allez me dire, oui, en France aussi, on a des bons produits. Ok, enfin bon. La mozzarella, la charcuterie italienne, le spritz, la pizza, les pâtes, les poivrons, les involtini, là, tu sais, les espèces de trucs, là, comme ça, avec le petit fromage fourré, avec le truc autour, etc. Mais putain, j'ai faim. Et bref, du coup, eux aussi, ils en font des caisses. L'autre soir, je vais dîner dans un resto italien. Le serveur m'a traité comme si c'était une extraterrestre qui débarquait sur sa planète. Genre, le mec m'expliquait le concept de la vie, quoi. Genre, tout à coup, il s'est bien expliqué. Alors, tout d'abord, on vous propose l'apéritivo. Qu'est-ce que c'est l'apéritif en italien? T'es là. Non, mais sérieusement, sans déconner, c'est l'apéritif. L'apéritivo, j'aurais pas pu le deviner, ça. Et après, il y a les pastas. Qu'est-ce que c'est les pâtes? Et là, il prend un temps quand même pour te regarder, pour bien vérifier que t'as compris ce que c'était les pastas. Tu vois, donc le mec, quand même, me prend pour une débile, quoi. Il y a aussi les ravioli à la ricotta, que c'est un fromage. Et la mozzarella, c'est un fromage en forme de boule blanche. Quand tu la coupes, elle est molle. Non, mais sérieusement, il est sérieux, lui. Tout le monde sait ce que c'est que la mozza, mais genre vraiment, c'est même pas qu'on sait ce que c'est limite on connaît son histoire par cœur, on en bouffe depuis 1000 ans, chaque été on a droit à une enquête exclusive sur la mozza, non mais genre faut arrêter. Non mais t'imagines si je lui avais demandé des explications sur les légumes grillés, j'aurais eu droit à quoi moi? C'est la zucchini, c'est la courgette, c'est un long légume vert comme ça, que tu grises la poêle en forme de cuve, que tu mets sur le feu. Non mais attends, il me prend pour une malade ou quoi?
L'italien de Toulouse, c'est pas
t'as oublié, t'as oublié l'accent d'Italie.
Mais il était peut-être pas italien, hein, mais qu'est-ce que je te dis moi?
Oh, la j'ai entendu une cloche.
Pas du tout. D'accord. C'est moi. Putain, j'ai l'impression d'avoir des hallucinations. Bon, tout va bien. Alors, t'as eu un bruit là?
Encore
pas du
défoncé.
C'est moi, je riais. C'était mon rire.
Ah, c'est une. C'est comme un... Il y a un moment, j'avoue, j'ai pas
excusez-moi,
travaillé.
Excusez-moi, on est à l'antenne là. Si jamais vous posez la question, on est à l'antenne.
C'est toi qui dis ça.
C'est ma fausse. J'avoue. Bon, alors bref, un moment, un de mes dîners tomate mozza, il y en a un à table qui, pour faire le malin, nous sort. Nous, à la maison, on revisite la recette classique en remplaçant la mozza par du chèvre et la tomate par la betterave. C'est hyper bon. Alors bon, je doute pas du fait que ce soit hyper bon, mais une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on pourrait juste mettre des limites à la notion de revisite? Genre là, tu revisites pas la tomate mozza, c'est juste une autre recette en fait. Pardon, mais c'est hors, dans Top Chef, ça t'es complètement hors sujet. C'est comme si moi je te disais, alors j'ai revisité le cheeseburger, j'ai mis des spaghettis à la place du steak et du parmesan à la place du pain. Ouais, c'est juste des pâtes quoi. C'est pas... Ah non, c'est un cheeseburger revisité? Bah non. Tu vois. Oh, ça me fatigue franchement. En plus, j'ai appris dernièrement que la mozza c'était hyper gras. Et bah oui. Ah bah je sais, tout le monde le savait. Je sais. Les sushis et les tomates mozza. Bah voilà. Putain, 6 ans de régime à pas comprendre. Et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. Bah oui, maintenant je perds rien. Bah la bouffonne quoi. Et ma mère qui m'a sorti hier. Enfin, Nora, allô, c'est du fromage. Enfin, tu t'attendais à quoi, ma pauvre chérie? Non, mais enfin, tu te calmes, sinon je t'offre pas le livre de Maïtena. Toi, tu vas te calmer. Ouais. Bon, j'ai fini par lui offrir votre bouquin parce que bon, c'était quand même à la fête des mères quoi. Et puis comme à chaque fête des mères, j'ai pas réussi à être de bonne humeur en lui offrant ce cadeau. Faut dire qu'il faisait 40 degrés hier. Elle venait de m'insulter par rapport au fait que tu manges un peu trop de mozza, tout en te palpant la hanche là. Non mais insupportable. Alors oui, je sais, je pourrais prendre du recul. Je ne connais pas l'accent italien. Je suis une grande fille. Je devrais arrêter d'être susceptible. Mais voilà, je m'en fous. Je suis immature. J'ai plus de 30 ans et je m'engueule toujours avec ma mère.
Ouais. Merci, Nora.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Quelques années mises en musique, quelques années de la carrière de Maïté Nabil Rabin qui publie, je le rappelle, Légumes, ils vont vous surprendre. C'est chez Marabout Éditions, je ne l'ai pas précisé. Recette de tous les jours, saison après saison. C'est pour... Pardon, pouvez-vous demander par exemple quand vous prenez un fruit, un légume précis comme une tomate, une carotte, une aubergine, une courgette, quelles sont les multiples possibilités de les préparer, de les cuisiner, de les stocker
avec exactement. Des propositions de vin avec chaque plat ah oui. aussi ah. quand même parce que ça on n'a pas parlé.
Ah ben moi je
reconnais la meurtrière.
Ça m'a étonné qu'on en parle pas.
Je suis une meurtrière avérée. Effectivement, je tenais absolument à ce que à chaque plat, à chaque proposition de plat, il y ait une proposition de vin et que ce soit fait par quelqu'un, un vin que vous pouvez trouver. C'est-à-dire qu'on a demandé à quelqu'un qui est partout en France.
Donc, un caviste célèbre ou une chaîne célèbre. Voilà. Très bien. La bande originale de Maïté Nabil Rabin, c'est par exemple en 1988-89, elle écoutait Nirvana. En écoutant Nirvana, là, vous vous retrouvez où, à faire quoi?
Je me retrouve un petit peu plus tard en Suisse, je viens d'arriver, je travaille à la radio suisse romande et il y a cette radio extraordinaire qui s'appelle Couleur 3 et je vis en coloc avec un certain nombre de garçons, enfin je vis avec un garçon
avec
qui est en coloc. Ouais. Non.
Ah pardon.
Non, c'est déjà après.
C'est bien gênant.
C'est, ouais. c'est quand même, bon voilà. Et la donc, il y a le coloc qui bosse à Couleur 3 et on écoute, et il arrive avec un album de Nirvana, donc celui un peu celui d'après, et il dit attends, je l'ai reçu, il est énorme, et on écoute ça et c'est dingue, et on fume des clopes en buvant des bières.
Et vous faisiez quoi sur la radio justement? Vous passiez de la musique? Alors, ou vous faisiez des interviews?
Non, moi j'étais je travaillais sur la radio culturelle à l'époque. J'étais
le France Culture.
Je couchais avec les gens de Couleur 3, mais moi-même, je travaillais sur l'équivalent de France Culture. Il vaut mieux ça que l'inverse, ouais. Je vous assure.
Bon, partage voilà. les tâches.
Ah oui.
Voilà. D'accord.
Nagui, dans le doute, est couché avec tout le monde.
Vous avez animé une émission sur le cinéma, la première. Et assez rapidement, vous avez été. D'abord, on vous a proposé un casting, vous l'avez refusé. Puis, vous avez accepté. Puis, vous avez été viré. Enfin, tout ça en très peu
temps. En fait, la radio et la télé, c'était le même endroit.
D'accord.
Et une fois que j'avais écumé la. Parce que moi, je suis une malade des relations sociales, j'adore les gens. Donc, une fois que j'avais écumé tout le personnel de la radio, j'ai quitté la.
Qu'est-ce que vous entendez par écumer?
Rencontrer tout le monde. Là, j'avais vu tout le monde. J'ai quitté la cafette de la radio pour aller à la cafette de la télé. Et là, il y a un type, au bout d'un moment, où je le connais, etc. Il me dit, viens, on va faire... Viens, je fais un casting, viens. Je fais, t'es malade ou quoi? C'est de la télé, il est fou, lui. Et je m'en vais. Et 3 mois plus tard, il me revoit, il me dit, tu fais quoi, là, maintenant? Je dis, je fais rien. Il me dit, viens. C'était un mardi, le jeudi, j'étais à l'antenne. C'était il y a 28 ans.
Et vous avez eu peur quand vous avez vu la première fois votre photo en une d'un journal, d'un quotidien ou d'un hebdo?
Vous voyez ce que c'est, la Suisse, il y a des caissettes à journaux. Et chez nous, il n'y a pas ça en France. Et y a donc ils mettent les unes, elles sont suspendues aux caissettes à journaux. Et un jour, je sors de chez moi, et dans les rues basses à Genève, je vois sur 1 kilomètre ma tronche partout. Ça m'a terrifiée. Je suis rentrée chez moi, je suis restée enfermée, j'ai appelé quelqu'un, il faut venir.
Ça dépend ce qu'il y avait écrit en tout. Il m'a écrit recherché pour meurtre. Oui.
Elle a écumé Couleur 3.
Nagui, ça lui arrivait avec Haute Vidéo. C'était assez propre, c'était hyper gênant.
Non, ça fait un drôle d'effet, je vous assure. Ça fait, c'est vraiment
moi, c'était
bizarre.
Un hors série, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. En 1997, vous écoutiez Rita Mitsouko. La version acoustique d'Andy.
Parce que mon fils aîné, qui a 20 ans aujourd'hui, est né pendant le concert privé. Il y avait une émission qui s'appelait Concert privé sur ouais. M6, qui était réalisée par son papa. Et mon fils est né en plein pendant le concert des Rita Mitsouko. Et cet album est indissociable de la naissance
clairement,
de mon fils.
C'est voilà. fort, c'est fort.
Ouais.
Là, dans ces années, fin des années 90, vous êtes repéré par Thierry Ardisson, qui vous fait la totale en termes de producteur. C'est-à-dire non seulement.
Oui,
la totale.
Il a vraiment une trop grosse réputation par rapport à ça. Il
fait la
totale.
Il fait la totale.
Vous avez la réputation.
Allô, bonjour, je suis Thierry Ardisson. Je vais vous faire travailler en France.
Oui.
Premièrement. Deuxièmement, je vais vous préparer un appartement au-dessus du mien pour pouvoir vous loger.
Oui. C'est vrai.
Tous les producteurs font pas ça.
Non,
et puis troisièmement, bosser vraiment et devenir producteur et vous placer, que ce soit sur M6 ou sur France 2. Moi, c'est vu sur la mer. On s'était découvert tous les deux et c'était Thierry qui produisait cette émission.
Absolument, c'est vrai.
Donc il est allé au bout de.
Ah oui, il est allé au bout, absolument.
Oui,
mais Thierry, c'est pas quelqu'un qui lâche. Hein. Jamais.
Non, mais après, il y a les éléments qui sont autour. C'est-à-dire qu'il y a les directeurs de chaîne, il y a les patrons, il y a ceux qui disent oui ou non au projet.
Après, on n'a pas.
Il s'est battu en tout cas.
Oui, il s'est battu absolument. On n'a pas pu aller beaucoup plus loin après, mais c'est tellement drôle. Après, on s'est planté et puis quelques rentrées après, on est ensemble de nouveau sur la même chaîne. Il me voit à la conférence de presse. Il me tourne la tête, il me regarde, il me fait ah. T'es encore là, t'es pas rentré en Suisse.
C'est Thierry Ardisson.
Il est génial.
Ensuite, il y a eu la période, c'était en 2004. J'ai trop vite. Il y a eu la période maternelle qu'il faut pas oublier
quand même.
En 2000, vous écoutiez parce que votre fils avait 4 ans.
Ouais, ça. C'est hard. Hein. J'adorais. Mais... Hi, hi, hi.
Pas guitare.
La Bamba Yaga. Attends, elle écoutait ça en boucle. On est allé le voir. Elle était super. Non, mais elle est super, cette fille. Après, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue, mais.
Elle est retournée
en Suisse. En 2000, en fait, vous avez tenté d'être comédienne.
Ah oui, j'avais plus de boulot et donc j'ai fait les cours de Steve Calfa à l'Atelier de l'Ouest. C'était absolument génial. Oh, j'ai fait m'aider et tout, tu vois. Non mais attends, c'était dingue, c'était génial. Et puis au bout d'un an et demi ou deux ans, Steve nous a reçus les uns derrière les autres. Puis il m'a dit, bon bah voilà, t'es prête, tu peux y aller. Je te cache pas que ça va être super dur pour toi parce que tu ressembles à rien. Vraiment, ça correspond à rien. Mais tu vas ramer. Il n'y a pas de typologie, quoi. Ouais. Donc ça va être dur. Et puis là-dessus, on m'a proposé les maternelles. Et comme j'étais seule avec mon fils, je me suis dit, bon là, est-ce que je continue absolument le courage à tout craint, là, à traverser le désert en ayant soif, ou est-ce que je prends un chameau et que je vais vite... Allez, je vais aller faire mon métier, tiens, allez-y. Voilà.
Et ça a duré 3-4 ans quand même, l'expérience des maternelles.
Ah oui, 3 ans, extraordinaire.
Et c'était un ton, moi je me souviens, je regardais les maternelles à votre époque, j'ai arrêté de les regarder quand vous êtes partie en fait.
Oh, mais parce que ça dépend du moment où on attend des enfants ou quoi.
Mais j'en attendais pas du tout, j'en ai toujours pas, donc c'est vous dire. Ça n'a pas forcément marché
continue.
De ce point de vue-là. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'était votre ton qui était...
Non, j'étais très fière, j'ai adoré, c'était mon
qui
bébé.
Qui était différent, par exemple, vous n'hésitiez pas à dire des horreurs sur les enfants, et ça c'était génial.
Je les pense en même temps, j'en pense telles horreurs. Mon mari m'interdit de parler de la famille en public, c'est absolument interdit. Ah non, mais de toute façon, c'est dangereux, dès qu'ils sont en supériorité numérique, il faut sortir. Ils sont dangereux, attention à vous, n'importe quelle mère de famille le sait.
Est-ce que le service public vous tenterait à nouveau, puisque vous avez donner ses belles heures justement au maternel
sur France 5. Je pense que je suis une enfant de service public. Je pense ça. Je pense que j'ai été construite par le service public, tant en Suisse qu'en France. Et je pense que j'ai cette espèce de truc de service public en moi. Mais est-ce que pour autant...
Je pense à ça parce qu'il y a une place à prendre dans cet aveu, par exemple, le soir.
Ah oui, on m'a pas appelé déjà. Et non, puis
ça vous ferait plaisir.
Je sais pas. Vous savez, c'est bizarre d'arrêter de travailler. C'est très très étrange d'arrêter de travailler parce que quand on arrête de travailler,
on prend un autre rythme et on a moins envie de travailler.
Non, c'est pas. C'est.
Ça
on fait un métier génial.
Vous,
attendez,
bah oui.
On fait un métier génial. C'est pas le sujet. Ce métier, il est fantastique. Mais quand on est sorti de la roue comme le hamster, on se rend compte qu'on était un hamster dans la roue. Et moi, j'ai très peur de re-rentrer dans la roue. J'ai très très peur de ça. Je devrais pas du tout vous dire ça, mais
non,
je m'en fous, je le pense complètement.
Mais votre responsable de compte à la banque, il vous pousse pas
à... Ah bon, mon responsable de compte, quand elle entend ça, elle va m'appeler, elle va dire « Eh, t'es gentil, faut que tu
travailles !» Et le hamster, tu remontes dans la roue.
Mais c'est vrai que j'ai peur.
C'était quoi cette vision du hamster, si on revient sur ces dernières années? C'est le rythme
c'est trop, on s'en rend pas compte, mais on laisse notre vie à faire des trucs qu'on devrait pas toujours faire.
On va en parler parce que ça peut s'appeler l'expérience, ça aussi,
ou
la maturité.
50 ans.
Elle nous revient, Camille, avec cet album qui s'appelle Oui.
Et voilà que je fais une fontaine de lui. Et voilà que je suis une fontaine de lait.
En tournée pendant tout la fin mai, juin, juillet, elle est en tournée, puis ça continuera jusqu'en 2018 à vous régaler, à voir sur scène Camille. En attendant, elle nous offre une reprise qu'elle a faite spécialement pour la bande originale, reprise d'un titre de Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. C'est Camille.
The paper
paradise and put a park in love. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? All the trees, put them in the tree museum, and they charge the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The good paradise, put up a parking lot.
Ooh, shoo-do-wop-wop.
Hey, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, and you need to be the birds and the bees, please. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The faith paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard a screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man.
Camille, juste, non mais c'est, alors allez, voilà, elle est pas contente parce que la tonalité, parce qu'il y a un truc, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le vivant, c'est le vivant, c'est pas un disque.
Sa merde, sa merde, voilà, c'est
tout. Merci. Merci à tout le monde pour le travail fait, mais je voulais juste qu'on évoque en tout cas ce texte qui date de 1969. Tu me faisais réflexion juste avant cette émission de dire c'est incroyable comme il est encore extrêmement actuel.
Il est malheureusement actuel, hein, they paved paradise and put up a parking lot. Donc ils ont bétonné le paradis, ils en ont fait un parking. Ils ont mis tous les arbres au musée et maintenant ils font payer les gens pour les voir. Et il dit, fermier, arrête avec ton DTT. Je veux des taches sur mes pommes et laisse-moi les abeilles et les oiseaux.
C'est magique. Elle revient tout à l'heure, Camille, en live avec un nouvel extrait de son album. L'album s'appelle Oui et on vous le recommande vivement. Merci, Camille.
Merci à vous.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadour.
Bonjour à tous.
Nora Mzaoui, Tom Villa,
bonjour.
Daniel.
Bonjour Daniel.
Il y a Camille qui sera en live tout à l'heure et notre invité Maïté Nabirama.
Bravo.
Oui. Pourquoi elle déchire ses vêtements quand on dit mon nom? Je ne comprends pas.
Sais, ça fait un effet bœuf.
Légumes, ils vont vous surprendre. Et pour rejoindre ce que nous disions tout à l'heure avec Camille sur les légumes et sur la nourriture, il y a pas le côté médical n'est pas forcément abordé. C'était peut-être le point de départ en vous disant tiens, ils sont en forme les gens que je vois et qui mangent finalement les fruits ou les légumes de leur jardin sans pesticides, sans passer par l'industrie ou l'agroalimentaire, sans avoir des tomates qui arrivent en plein décembre et qui ont traversé la planète entière en polluant avec les avions, les camions et en mûrissant dans les cageots ou dans des salles de maturation et pas spécialement sur l'arbre ou
et
sur
virgule,
le pied.
Et qui sont dégueulasses.
Ouais, et qui n'ont pas de goût. Et qui n'ont pas de goût. Parce que les vitamines viennent du soleil et qu'à un moment donné, on ne peut pas tricher avec ça. Et ça, vous ne l'abordez pas et je sens que c'est pourtant le point de départ.
Non, c'était, le point de départ, c'était comment ça se fait qu'eux, ils soient en aussi bonne forme et surtout qu'ils aient un excellent antioxydant qui s'empêche de vieillir. C'était surtout ça. Et je me suis dit, tiens, effectivement, c'est ce qu'on se met dans le cornet qui décide de notre santé. Après, voilà, le bouquin est vraiment, il est comment. L'idée, c'était vraiment combien de recettes de courgettes on connaît? Une. Bon, bah ça va pas, quoi. Quand c'est la saison des courgettes, il faut en connaître plus.
Non, une. T'as des courgettes dans la ratatouille déjà, si tu vas par là. Il y a les courgettes à l'eau, il y a les courgettes à ratatouille, il y a des gratins.
Courgettes à l'eau, tu fais jamais des courgettes à l'eau. Hein.
Gratin, non.
Si t'es déprimé.
Si, de temps en temps.
Bah non, mais.
Si t'es en taux, là.
Oui, une soupe.
Si je peux me permettre de donner un petit conseil, justement, santé, c'est pas des épluchés.
Attendez, je note.
Non, c'est surtout ne pas éplucher.
Si c'est bio.
Il faut les laver.
Si c'est bio.
Il faut les laver, mais pas les éplucher, parce que toutes les vitamines sont dans la peau.
Absolument.
Et si on mange que les épluchures, est-ce qu'on est en top forme?
Oui. Mais il faut cuire. Non, mais après, la santé, c'est trop compliqué, Nagui. C'est un vrai job. Après, il faudrait cuire. Si tu cuis tes légumes à la vapeur, de toute façon, ou au four, ou ce que tu veux, il n'y a plus rien dans ton légume. Au-delà de 47 degrés de cuisson, tout meurt. Donc c'est pour ça qu'il y a
Donc on rejoint ce que disait Camille tout à l'heure sur le cru.
Bah il faut a priori c'est comme ça qu'il faut. De toute façon il faut toujours manger un truc cru dans son repas. Il faut toujours avoir un truc cru. Il faut faire comme les vieux trucs de grand-mère. Un truc cru, un truc vert, un truc cuisiné. Comme ça
un
t'es bon. Non bah faut du roquefort tu veux. Ah. Mais la basse température et la cuisson lente c'est le seul moyen de garder les minéraux dans les. Donc c'est extrêmement compliqué de s'occuper de la santé. Ce bouquin n'a pas cette prétention là.
Non, mais on sent quand même qu'on se portera mieux en suivant ces recettes. Il y en a combien en tout des recettes d'ailleurs, je ne sais pas.
Il y en a plus de 110. Et on en a enlevé parce qu'on n'arrivait pas à faire. Parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. Le chef en avait fait aussi beaucoup qu'on n'a pas pu toutes mettre. Donc, ouais, il y en a. Bah, on en fera un.
Tome 2, quoi.
Bah, je vais faire les soupes, je crois.
Et alors, ce sont des recettes que vous avez créées, que vous avez découvertes, que le chef vous a proposées. Comment c'est venu l'idée? Parce que je vois, par exemple, betterave avec du. Attendez, c'était quoi? C'est chutney, c'est ça? Ouais, chutney de betterave.
Ça, c'est le chef ou c'est moi?
Je sais pas.
Non, c'est moi. Le chef, il y a un macaron. Ça, c'est ses recettes à lui.
Okay.
Et puis moi, il y a des recettes que j'ai, que je fais traditionnellement. Il y a des recettes que je pique parce que je vais chez des gens, ils font le truc. J'ai, oh, c'est trop bien, c'est génial.
Pomme, gingembre, betterave.
C'est top, ça. Bon, moi, j'adore les. Moi qui n'aime pas le salé sucré, j'aime bien. La pomme, je sais pas, il y a un truc acidulé avec la pomme qui est très bien. Pomme céleri, c'est super. Pomme céleri, la purée de céleri, mais vous mettez les pommes dedans, c'est extraordinaire.
Et vous avez déjà raté une recette? Ça vous est déjà arrivé?
Oui, mille fois, t'en laisses. Mais bien sûr, une ratatouille, j'ai fait une ratatouille qui avait pas de goût. Le truc,
non, ça existe pas.
Bah, je te jure.
Trop cuit.
C'est pas possible.
J'ai fait une ratatouille. Bah, trop cuit, non, même pas, parce que la ratatouille, c'est bien quand ça réchauffe. Ça,
exactement. C'est ça qui est génial. Ratatouille, tu dois le faire déjà un par un. C'est-à-dire faire revenir les tomates avec des oignons et à part
qu'est-ce que. Paul Bocuse de France
Inter. Mais non! Un pot-au-feu végétarien, le fait cuire pendant 8 heures, immonde. Le truc,
tu cuis tes tomates dans ton coin, après tu cuis tes aubergines dans ton coin, tu cuis tes courges dans ton coin, et après tu mets tout ça et ça fait doux.
On dirait mon mari, il fait comme ça pareil, il fait un truc après l'autre.
Évidemment.
Un truc après l'autre. Moi je fais tout ensemble, hein, je te dis, j'ai pas le temps moi. Mais c'est vrai que c'est comme ça.
Et la ratatouille réchauffée, il n'y a rien
de meilleur. Il n'y a rien de meilleur.
Moi j'en ai raté. Avec des œufs brouillés et tout, c'est génial. Enfin, bon,
ou un bout de jambon, un petit bon jambon de Bayonne.
Non, ça va pas être possible ça. Maïté Nabirama, donc signe avec Pierre et chez Maïté, ces légumes qui vont vous surprendre et qui vous mettent l'eau à la bouche chez Marabout. Pour avoir testé encore une fois des recettes de ce livre, je vous le recommande vivement parce que c'est pas uniquement la nana de la télé qui se met à faire un bouquin de cuisine.
Ah bah c'est même pas du tout ça.
Non, c'est la maman. J'ai l'impression.
Non, mais c'est pas du tout ça. Je devrais pas être là. Enfin, franchement, je sors d'interview politique à vous présenter un livre de légumes. C'est quand même surréaliste. On est d'accord.
Après les gros légumes, les petits.
Après les grosses légumes, les petites, absolument. Même s'il y avait quelques petites parmi les interviewés. c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la fille de la télé. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose de joli. Et j'aime ce livre. J'en suis très fière. S'ils vont pas, tant pis. Mais vous auriez bien tort parce qu'il est vraiment sympa.
Exactement. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Et on commence par une bonne, je dirais même une excellente nouvelle.
Ah, tu dis
c'est officiel.
Non,
j'ai pas dit une excellente. J'ai dit l'Office national de la chasse et de la faune a effectué ses prélèvements et le castor est de retour en Île-de-France.
Bravo, bravo.
Merci Maïté.
Pauvre bête.
Voilà. Alors qu'on se le dise, hein, il est de retour. Alors qu'est-ce que ça va changer à nos vies, ce retour du castor? Voilà. Pour être honnête, pas grand-chose, si ce n'est... Pour accompagner le chou de Bruxelles au miel, dont la recette est à retrouver, page 178 du livre de Maïté Nabirama, légumes, rien de tel qu'un civet de castor.
Non.
La chair du castor est forte et son goût prononcé se mariera à merveille avec le chou de Bruxelles, dont l'odeur âcre pourrait être masquée par la viande du rongeur à queue plate.
C'est dégueulasse.
Et figurez-vous qu'il n'est pas le seul à être de retour, le castor. Figurez-vous que l'Union internationale de conservation de la nature est formelle, la loutre.
Mais non.
Et le vautour. Le vautour. Sont aussi de retour. Alors la loutre et le vautour, c'est hyper bien qu'il soit revenu. Mais on fait quoi?
Mais c'est super simple. Un tartare de loutre servi avec des câpres sera l'accompagnement idéal d'une belle assiette de topinambour croncelle et huile d'olive dont la recette est dans le livre Légumes de Maïté Nabirama, page 244. Le topinambour, c'est fade, c'est dur, bref, c'est pas bon. En revanche, accompagné d'un tartare de loutre au goût délicat de noisettes et de poisson mort, ça devient mangeable. Pensez-y, quand on vautour dans la chair sans le moisi, préparez-le en daube. Bien cuite, la viande de vautour, qui donne souvent envie de vomir, sera adoucie si on pense à l'accompagner d'un écrasé de pommes de terre et courgettes. Où trouver cette recette ? Facile, procurez-vous l'excellent livre de Maïté Nabirama intitulé « Légumes » et reportez-vous page 54. Voilà, grâce à Maïtena et moi, le castor, la loutre et le vautour servent enfin à quelque chose. Alors pour conclure, hier on a eu le palmarès du Festival de Cannes, palmarès hyper intéressant, voire passionnant, dont je n'ai rien retenu. En revanche, tard dans la nuit.
Tartare dans la nuit, c'est drôle.
Tartare dans la nuit, un autre palmarès cannois, plus confidentiel, celui-là a eu lieu. Et le grand prix du jury catégorie People est attribué à... Pierre Lescure ! Pierre Lescure récompensé à l'unanimité pour la plus grosse note de mini-bar du festival. 134 533 euros. Le président du festival qui n'est pas avec nous ce soir. En ce moment, il est en ligne avec son banquier pour négocier un prêt à la consommation. Bravo Pierre. Alors bien sûr, Palme d'Or tant attendue, elle a été attribuée, il faut le dire, à un des grands favoris. La Palme d'Or, catégorie People, est attribuée à... Augustin Trapenard. Augustin Trapenard récompensé pour son assiduité aux fêtes et son taux d'alcool qui n'est jamais, je dis bien jamais, descendu de tout le festival en dessous des 12 grammes par litre de sang. C'est un record battu, un record qui était à 10 grammes et qui datait de 1990, détenu par Gérard Depardieu pour son rôle dans Cyrano et qui lui avait valu le prix d'interprétation masculine. Augustin n'est pas là pour recevoir son prix, mais on est en liaison avec lui depuis l'hôpital de Cannes, où avant son retour à Paris, il se fait greffer un foie. Allô, Augustin ? Augustin ? Apparemment, la greffe a déjà commencé. Merci, Augustin. À très vite sur France Inter.
Augustin est toujours élégant. Ça ne va pas être élégant, lui, c'est pas lui. C'est pas
vrai. Il a crié de façon élégante. Et en ce moment, à Cannes, ça s'active, mais ça s'active dans l'autre sens. Les services municipaux nettoient la croisette à grands coups de Karcher. Ils effacent les restes des paparazzi piétinés à mort par l'indifférence des people qu'ils venaient photographier. Cet après-midi, les vieux de la croisette seront décongelés ou bien sortis de leur bain de formol pour aller regagner leur transat. Et une fois le soir venu, contempler le coucher de soleil de la magnifique Riviera sous le regard perdu et débile des mouettes locales. Ils regarderont chaque coucher de soleil comme si c'était le dernier. Et ils auront raison parce que pour un gros pourcentage d'entre eux, c'est le cas. Un spectacle naturel collectif magnifique accompagné du clapotis urinaire de leur caniche et autres kiki mal apprivoisés, n'y tenant plus après 12 jours d'abstinence. Avant de se quitter, une dernière tentative pour recueillir une réaction d'Augustin qui, après son émission de ce matin, est parti directement en observation hépatique au Val-de-Grâce. Non, ce sera pour l'année prochaine. À demain.
Merci Dédémon. Merci Augustin.
Sur France Inter.
Maïté Nabirama signe Légumes, ils vont vous surprendre. Plus de 100 recettes, des recettes de tous les jours et classées intelligemment par saison et par légumes. C'est-à-dire, il suffit de voir ce que vous avez aussi dans le frigo. Vous allez dans le bouquin et vous savez exactement quoi en faire et vous surprendre et vous encourager même aussi chacun, chacune à amener sa touche personnelle, à modifier soit la durée de cuisson, soit la proportion des ingrédients.
Je dis que le four, je précise que, effectivement, mon four, c'est pas le vôtre et que si on a fait quelque chose dans son four avant, il est chaud et donc la durée de cuisson elle est plus bonne, etc. Donc mais ça, tous les gens qui utilisent les cuisines savent que les durées de cuisson sont toutes fausses. Donc dans le mien aussi.
Y compris tu sors des tomates du frigo, elles sont à 4 degrés, donc, ça ne s'occupe pas de la même manière, c'est
donc,
clair.
À part ça, il faut... Oui, et puis le reste, il faut...
T'as jamais pensé à ça ?
Non, non. Ah. Bah, note-le.
Voici le brouillon de culture de Leïla pour Maïtena Biarama.
Oui, Maïtena, je vous sors de la promo. Un petit bol d'air, c'est pas grave, on aura un générique un autre jour. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Alors, on est au Stade de France. Je suis avec mon amoureux, qui a une grand-mère anglaise et qui a passé toute son enfance et toutes ses vacances en Angleterre, qui ne chante jamais la Marseillaise, il ne se lève pas. Par contre, il met la main sur le cœur pour faire Rule Britannia. C'est une honte. Bref, nous arrivons au Stade de France et là, je lui dis, t'es mort. Évidemment, il ricane en me tapant gentiment sur l'épaule. Et le match commence. On a une petite bière. Et puis je sens mon amoureux qui mesure quand même 2 mètres, qui quand même se rétrécit petit à petit dans sa chaise. Et puis ça vient se gâcher cette histoire, parce que ça devient très difficile de se lever à côté de l'homme qu'on aime en hurlant « Vas-y, tue-les !»
C'est un souvenir d'un France-Angleterre.
France-Angleterre, oui.
Sport dont vous êtes absolument fan du rugby. Vous avez même assuré le rôle de consultante pour RTL lors de la Coupe du Monde en 2007.
Oui, ce fut cette folie, oui, c'est vrai.
Vous êtes toujours aussi assidu?
C'est-à-dire que moi, je fais le tournoi destination, parce que si je me mets au top 14, après, je fais plus jamais rien de ma vie, quoi. Donc, c'est pas possible.
Il faut limiter le nombre de matchs.
Ah ouais, non, je peux pas.
La finale la semaine prochaine, Toulon, clairement.
Bien sûr, ouais. Voilà, on sait déjà ce qui va se passer, donc, comme d'habitude. Non, mais bien sûr, on va regarder, on hurle, etc.
Mais qu'est-ce qui va se passer?
Non, je peux pas dire. Après,
un pronostic.
Bon, moi, je veux que Clermont y aille. J'aimerais bien, ça serait bien. Bravo à Toulon, hein.
Les jaunes et bleus, allez, on a compris.
Allez, on y va. Bon, voilà. Non, mais bien sûr.
Pas mal les rouges et noirs aussi.
Et ouais, l'équipe bien. Que vous suivez avec assiduité, pour le coup, Non, vraiment que le tour de destination.
Ouais, non, vraiment. Ouais. Sinon, après, je franchement, j'arrête de vivre. C'est pas possible. C'est trop. C'est une implication massive. Moi, je pleure dans les matchs, quoi. Je finis à faune. Non, c'est pas possible. Je peux pas. C'est une implication physique trop énorme.
Et il y a un autre sport aussi que vous évoquez souvent dans les interviews, c'est la plongée.
Oui.
Considérant que c'est vraiment l'activité qui vous permet d'être le mieux au monde.
C'est l'endroit où je suis responsable. J'ai beaucoup de mal, j'ai pas le permis de conduire, je suis agoraphobe, je suis claustrophobe, je suis tout le truc qui finit en phobe. J'ai peur des araignées, arachnophobe, j'ai dit. Ouais. Mais alors, je prends mes responsabilités sous l'eau, c'est très étrange. C'est comme sur un plateau de télé. Je suis à ma place et donc je prends mes responsabilités.
En apesanteur.
Et j'ai déjà...
C'est vraiment le sentiment qu'on a. Ouais. C'est le silence et l'apesanteur.
Et ça m'est arrivé déjà de ramener quelqu'un à la surface. Enfin, donc je suis vraiment béton, quoi.
Mais il voulait ou pas que vous le rameniez?
C'était un mérou.
Il m'a plutôt dit merci après. Parce que
c'est la sensation d'être maître à bord, quoi. Maître de tout gérer.
Alors que voilà, je suis incapable de conduire une voiture. Dès qu'on me laisse seule avec des enfants, je panique, je sais pas quoi faire. Voilà, donc non. Là, en plongée et sur un plateau de télé, je suis chez moi, je suis à ma place.
Et quand vous évoquez tout à l'heure, justement, l'après, là, de ne pas travailler, de se rendre compte de...
Enfin, pas travailler, c'est plutôt faire ce qui vous plaît, en fait, ouais. C'est plutôt ça.
En tout cas, de ne plus être dans le même rythme effréné, j'imagine que le rythme était tendu, et de voir qu'on a été un hamster à un moment dans une roue, qu'est-ce qui est le plus appréciable aujourd'hui?
Je peux pas vous répondre à cette question. Mon hamac, les fleurs qui poussent. Faut pas déconner. Enfin, être au chômage, c'est pas drôle. Je pense à tous ceux qui sont au chômage et qui subissent ça, c'est vraiment pas drôle.
Vous l'avez dit, vous êtes pas au chômage.
Si, moi, je suis au chômage. Mais
j'ai au chômage et les prud'hommes arriveront en mars 2018.
J'en ai encore pour 2-3 ans. Voilà. Pour un moment.
Donc, c'est pas encore ce qui se passe.
Il va falloir que j'aille travailler, bien entendu, mais. Ce que je veux dire, c'est de travailler quand... moi, ça fait 28 ans que je travaille et que je n'ai fait que des choses qui me plaisaient. Mm-hmm. Avec des gens, parfois c'était réussi, parfois c'est raté, parfois on s'entend, parfois on s'entend pas. Mais j'ai toujours suivi mon chemin. Et là, mon chemin, je sais pas, j'ai 50 balais, j'ai plus envie de donner ma vie au boulot, qui me le rend bien d'ailleurs. Donc, je sais pas comment vous dire. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de continuer à faire ce qui me plaît. J'ai envie de continuer à vivre avec ce luxe-là.
Pour simplement éclaircir quelque chose à propos des prud'hommes qui arrivent en mars 2018, c'est toujours long les prud'hommes malheureusement, oui. Ce que vous regrettez le plus, c'est la manière dont vous avez été licencié, ou parce que le fait d'être viré,
c'est le lot de notre métier.
Mais bien sûr,
journaliste.
Mais évidemment, et c'est pas un sujet pour moi. Quand on vit du désir des autres, il faut accepter qu'il y en ait plus. Voilà, ça c'est pas le sujet. Moi, ma seule blessure, et je pense qu'elle est commune à tout le monde, c'est que Canal+ est un pan de la culture française, et que en éteignant ça. On a éteint une lumière et que moi j'ai grandi avec. J'aime cette maison avant d'y travailler.
Pardon, ça c'est pas défendable au prud'homme. Bonjour, ils
ont éteint, mais au prud'homme. Voilà. Mais au prud'homme, je défends. Il y a un contrat, il y a une signature en bas du contrat. Vous avez une parole, vous avez un engagement. C'est légal, en fait. Je vais pas faire des états d'âme. Il y a un engagement légal. La loi, c'est la loi pour tout le monde, y compris pour Vincent Bolloré. Voilà.
Et je finis, j'aurai plein de choses à vous dire en fait, Maïtena, mais on va se dépêcher, j'ai un cadeau pour vous. Hier, on a dévoilé le palmarès de la 70e édition du Festival de Cannes. Voici ce livre, La grande histoire du Festival de Cannes, une préface de Monica Bellucci aux éditions L'Archipel, qui retrace toute l'histoire de ce grand rendez-vous mondial du cinéma, en précisant à chaque fois le palmarès par année, les anecdotes, les photos aussi, parce que c'est toujours un témoin d'une époque et de mouvements aussi cinématographiques.
Et les affiches.
Et les affiches.
Et préface de Monica Bellucci, ça va être cool.
D'ailleurs, à propos de cinéma.
C'est monstrueux.
À propos de cinéma, Camille, il y a, vous aviez eu un rôle dans, devant la caméra d'Emmanuel Berco,
oui.
L'envie de refaire du cinéma ou d'être comédienne.
Oui, bah, comme disait Maïtena, enfin, on dépend du désir des autres.
Et le vôtre étant de le faire, si on vous
oui,
le propose.
Oui.
Alors on sent toutes les deux, elles
en
ont l'envie.
Je chante.
Très bien.
Mais si, bien sûr.
Et elles chantent bien.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt.
Ça, c'est un tube pour moi, ça. Je ne mâche pas mes mots. J'adore cette chanson. Je l'aime tellement. Il y a Piscine également.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête. Une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de par une piscine d'hôtel. Sur mon côte d'azur, c'est chaud, les âmes faibles. Ma salive sans le
Mais il faudrait arrêter aussi, nous, Français, de voir les Sia, les Björk comme étant des génies parce qu'elles sont à l'étranger, c'est formidable, c'est génial, et quand on a un génie à portée de la main, il faut pouvoir lui dire. Donc, on lui dit les yeux dans les yeux qu'elle est géniale et qu'on l'aime. Merci Camille d'être avec nous. La voici avec Seeds, et c'est en live dans la bande originale. Christelle Lassor, Gisela Razanaja Tovo. Pardon, j'ai pris mon élan, excuse-moi. J'essaie de faire le mieux possible. Clément Ducol, qui était également aux percussions, au chant et aussi aux arrangements et à la production avec Camille. La tournée passera par Nantes le 30 mai prochain. Le 31, ça sera Rouen. Ensuite, il y aura La Cigale les 6, 7, 8, 9 juin. C'est complet, mais comme je dis toujours, il y aura toujours un pote qui aura acheté deux places et qui pourra vous inviter.
Donnez-nous le numéro de ce pote.
Il y a le Will of Green le 11 juin à Paris. Ensuite, différents concerts en tournée d'été, notamment les festivals comme le 14 juillet au Francofolie de La Rochelle, les Vieilles Charrues le 15 juillet, les Nuits de Fourvière le 20 juillet, le Paléo Festival à Nyon le 21 juillet, Festival de Brive-la-Gaillarde le 23 juillet, on s'approche un peu de ton coin, aussi à Nice au Théâtre de Verdure le 25 juillet, les Nuits Secrètes le 29 juillet à Aulnois-Emery le 30 juillet à Saint-Nazaire, et la tournée reprendra à la rentrée, et ce jusqu'en 2018. L'album s'appelle Oui. Merci mille fois d'être venu, Camille.
Portez-vous
bien.
Merci.
Qu'on me pense bien plus longue, plus lente qu'une transe à mille étangs.
Et je trouve que le duo Camille Maïtena va bien aussi. Non, mais c'est vrai, vous avez les mêmes valeurs et le même franc-parler, toutes les deux. Ça fait du bien. Maïtena, Birabin, signe, je le rappelle, Légumes, ils vont vous surprendre, un peu comme vous, en vous excusant, Daniel Morin.
Désolé pour Maïtena et Camille, qui, après avoir si bien parlé légumes et alimentation saine, vont devoir, c'est prévu, se finir à la cantoche de Radio France. Salut les artistes, ça sent le coma. Désolé pour Madame Nagui, on l'a entendu, elle est cantonnée à la cuisine, je vous rassure, dans sa grande mansuétude, on en a parlé, à Nagui Moubarak Junior. Il a décidé de diversifier vos tâches. Il vous offre le ménage. Désolé pour tous les Italiens qui se sont sentis insultés par la tentative d'imitation qu'on peut qualifier de gênante de Nora Hamzeri. Je vais me rattraper. Perdonnez la mama, il va faire un culo tutti. Voilà. Désolé pour Björk qui, à 12h23, a été jeté à la poubelle, comme ça, gratuitement, par Nagui. En même temps, c'est vrai qu'elle gueule pour rien dire, celle-là. Elle nous énerve un peu.
Non,
désolé,
j'ai dit, pour... y a pas que Björk, si y a
désolé pour nos auditeurs qui nous ont appelés pour adopter deux des enfants que Maïtena a décidé de donner. C'est Camille qui les a embarqués. Je crois qu'elle veut les revendre à Björk.
Merci Maïtena, très bientôt sur les ondes, qu'elles soient radio, télé ou en tout cas dans nos casseroles et dans nos poêles.
Merci de nous avoir accueillis, vraiment.
Ça s'appelle Légumes, ils vont tous vous surprendre.